Babylone. Nancy Ypsilantis.
Et Laurence Froidevaux. Bonjour et bienvenue dans Babylone. Aujourd'hui, en marge du cinéma Black Movie, festival de films indépendants qui se tient à Genève jusqu'à dimanche, eh bien, nous allons nous plonger dans ce cinéma africain pour une fois. Dans Babylone, on vous a parlé de cinéma du sud-est asiatique, coréen, portugais, toujours à l'occasion de ce festival fort intéressant, puisqu'il nous présente des films d'ailleurs et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur nos écrans. Aujourd'hui, gros plan sur ce cinéma africain, on revient à nos racines, Laurence.
Oui, et ce qui est dommage, est-ce qu'on m'entend ? Voilà, on m'entend, bonjour. Ce qui est dommage, c'est que ce sont des films que l'on ne voit pratiquement jamais dans nos salles, et c'est assez regrettable parce que ce sont des films comme des fenêtres sur le monde, des films qui donnent à voir et à penser dans un monde, c'est un peu bateau de le dire, mais dans un monde mondialisé dans lequel on peut voyager partout si on le souhaite, se déplacer, mais où l'on va toujours aux mêmes endroits pour les vacances, un monde qui se présente bien souvent sous l'image réductrice de la carte postale des voyagistes, un monde conforme à ce que l'on voudrait qu'il soit. Alors ici, grâce à Black Movie, que ce soit avec des documentaires ou des films de fiction, des longs, des courts, des confirmés ou des expérimentaux, des émergents, ce sont souvent quand même des films qui sentent l'urgence et la nécessité, enfin des films qui secouent et qui font réfléchir.
Et qui réfléchissent ce continent ou ces continents africains. Michel Amarger, vous êtes journaliste, critique de cinéma, grand connaisseur du cinéma africain. Vous connaissez ce festival de fort longue date. Ce cinéma africain, on parle toujours de ce continent africain, il est multiple.
Oui, et c'est pour ça que je préfère parler de cinéma africain au pluriel. Parce qu'effectivement, les situations culturelles, politiques et cinématographiques sont très diverses en Afrique et qu'on peut distinguer des tendances, mais que il ne faut pas le réduire à l'expression d'un cinéma africain. On parle par exemple du cinéma européen. Or, quoi de plus différent qu'un film suédois, qu'un film espagnol? Ils n'ont pas beaucoup de rapports. Donc, il faut bien distinguer dans ce grand continent où il y a plus de 50 pays très différents, des tendances et des courants qui sont très divers.
Voilà. Et des centaines de langues.
Et des langues extrêmement diverses aussi. Voilà. Mmh. Et la programmation de Black Movie incite donc à reconsidérer un peu cette multiplicité.
Une Afrique qui n'est pas... Qui n'est pas que traditionnel, et ça on s'en rend bien compte dans le cinéma proposé, c'est je reviens quand même au terme continent, mais c'est un continent qui a une longue tradition cinématographique, et ça on l'oublie souvent.
Oui, il a été très très tôt visité par les Frères Lumière et les opérateurs des Frères Lumière, et puis le cinéma c'est comme un embrasement. Ça a beaucoup commencé dans le nord, dans le Maghreb, et puis dans le sud, avec l'Afrique du Sud, qui a une tradition cinématographique extrêmement ancienne et où la situation du cinéma s'est structurée et on en voit les fruits parce que la production ne s'est jamais démentie en Afrique du Sud.
Et aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest francophone, des très bonnes écoles de cinéma.
En Afrique de l'Ouest francophone, la situation est plus difficile parce que c'est plus un cinéma d'auteur, parce que les pays ont moins de potentiel économique souvent, qu'il y a des pays sahéliens où il n'y en a pas beaucoup, et que quand il y a des moyens, ils vont pas forcément au cinéma, on préfère exporter les diamants, le pétrole et toutes les richesses, et pas en faire profiter la culture. Et le cinéma est un peu, en Afrique de l'Ouest, un peu en difficulté, mais il y a des pépites, des auteurs, et aussi quelques endroits où on peut effectivement apprendre le cinéma, mais ça c'est récent.
Il y a un développement, Michel Amarger, des cinémas africains quand même à partir des indépendances, dès les années 50-60.
Dans les années 60, tout de suite, le cinéma qui a été apprécié parce que les gens ont vu des films qui étaient les films coloniaux, ça leur a donné un goût du cinéma et du spectacle. Et les gens en Afrique, à peu près dans tous les pays d'Afrique, ont vraiment une grande résonance par rapport au cinéma. Ce sont des spectateurs très réceptifs et réactifs aussi. Et donc, le cinéma a été très tôt connu. Et puis, à partir des années 60, où les pays sont devenus indépendants, on a vu dans le cinéma une manière à la fois de s'émanciper de ces images qu'on a eues, qui n'était pas celle que les gens voulaient ou avaient envie de faire. Et donc, il y a d'autres discours qui se sont développés. Aussitôt, on a empoigné le cinéma et les caméras pour parler de ce qui dénonçait les effets de la colonisation, pour exprimer tous les espoirs des indépendances et de la société à bâtir, pour regarder aussi comment les hommes et les femmes allaient se situer dans des sociétés où ils devaient maintenant assumer les directions économiques, les directions politiques. Donc le cinéma est devenu un cinéma, je dirais, militant quelque part. Et puis il n'a pas perdu son caractère de spectacle et son côté divertissant non plus. Et après, ça s'est enchaîné comme ça avec des films qui sont devenus un peu moins graves après, parce que la situation était autre et que les questions ont été diverses. Mais le cinéma, voilà, a rebondi suivant les périodes avec voilà, beaucoup d'empathie avec la situation de la société.
La situation coloniale perdure parce que presque tous ces films sont coproduits avec des pays européens ou ailleurs.
Il y a deux tendances, je dirais. D'abord, il y a des films qui sont en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui sont faits avec des fonds européens. On va les chercher en Europe, par tradition, puisque les premiers films étaient financés par les opérateurs français, belges, etc. Les opérateurs économiques, j'entends. Et puis, dans le Sud, on va les chercher avec en Amérique, en Grande-Bretagne, bon, par tradition anglophone. Et parallèlement à ça, il y a, je dirais, une envie de faire des films de l'intérieur avec des moyens locaux. Alors ces films sont moins ambitieux parce qu'il y a moins de moyens, ils ont moins d'amplitude cinématographique, mais ils sont destinés à un public local. Et cette production locale se développe de plus en plus. C'est une manière de s'autonomiser, de la rigueur budgétaire qui est celle des pays du Nord, qui aident moins. Et c'est aussi une manière de développer des produits en direction directement du public. Donc le cinéma évolue beaucoup dans cette forme-là.
Michel Amargé, votre rapport au cinéma africain, c'est votre rencontre avec ce cinéma-là, s'est passé comment ?
Écoutez-moi, les premiers films que j'ai vus très jeunes en provenance de l'Afrique, des films de Souleymane Cissé, de Ousmane Sambène, qui sont un peu des figures de référence. Ousmane Sambène, qui est le premier cinéaste du Sénégal et un des premiers cinéastes à avoir fait un film sur son continent après les indépendances en 1963. Les premiers films que j'ai vus m'ont déconcerté. C'était pas ma culture, mais justement parce qu'ils m'ont déconcerté, j'ai eu envie de les approcher de plus près, de comprendre de quoi il s'agissait là-dedans, et plus je me suis approché, plus ça m'a intéressé, et mon rapport avec le cinéma et les cinématographies africaines, voilà, c'est d'abord un rapport de ça me touche, ça m'interpelle, et ce sont des cinémas qui en plus véhiculent avec eux beaucoup de questions d'expressivité, de questions de dépendance politique, de dépendance coloniale, désir d'émancipation. Donc tout ça se mêle à une écriture cinématographique qui, quand elle est en phase complète et héritée de la culture africaine, donne des films qui sont voilà, étonnants et qui nous interpellent.
Et qui sont singuliers, justement. Si on devait faire un blind test, comme ça, c'est un peu curieux pour du cinéma, mais on pourrait dire assez rapidement, tiens, ça c'est un film qui est produit par des Africains. Est-ce qu'il y a une esthétique singulière, un regard particulier, une originalité ?
Eh ben, il y a des codes culturels qui sont mis en jeu par les cinéastes, qui sont effectivement pas, c'est pas une tradition écrite, les civilisations africaines et les cultures africaines la plupart du temps, c'est une civilisation orale. Donc quand les cinéastes se mettent à mettre en scène et à structurer un film dans son montage avec cette tradition orale qui est la leur, le montage du film, sa conception, elle s'en démarque de ce qu'on peut voir d'habitude.
Moi, ce qui me frappe, c'est la grande pudeur des films africains, de façon générale.
mais parce que il y a beaucoup de pudeur, surtout dans les zones sahéliennes, par exemple. Faire un gros plan sur quelqu'un dans un film, c'est indécent. Donc les cinéastes se tiennent à distance. Et plus on montre quelque chose qui est de l'ordre de l'intime ou qui est de l'ordre d'une question sensible qui est soulevée, plus les cinéastes se mettent à distance. Et souvent, les gens en Occident sont étonnés que il y a quelqu'un qui meurt dans un film, on voit de loin un vague cortège qui passe et on a compris que la personne était morte, mais non, on s'approche pas. La pudeur, elle est là aussi. Donc il y a une pudeur du regard, une pudeur de l'approche qu'on peut faire aussi des sujets. Et voilà, par exemple, pourquoi dans les films d'Afrique on voit pas beaucoup de gros plans. Voilà, par exemple, mais on en voit.
Alors là, l'homme à la caméra est blanc, il y a des gros plans saisissants, c'est un film qui m'a bouleversée. Je peux tout à fait l'imaginer projeté en continu, en boucle, au Musée de l'Art Brut, ici à Lausanne. Laurence Froidevaux, je suis très heureuse que vous ayez choisi ce film-là pour Babylone.
Oui, alors c'est un heureux hasard, je dois bien l'admettre. C'est un film signé de Joris Lachaise, qui est français, qui vit entre Paris et Marseille. Et ce film porte un joli titre qui ouvre à beaucoup de questions, ce qu'il reste de la folie. Joris Lachaise, qu'on va entendre dans un instant, s'est immergé véritablement dans une institution psychiatrique, dans la banlieue proche de Dakar. Et on est véritablement au cœur de cet hôpital qui montre et donne la parole aux malades, mais pas seulement, à tous ceux qui les entourent, donc aux soignants, aux familles. Il n'y a pas d'approche dogmatique, mais je me réjouis de vous entendre sur ce film, Michel Amargé. La caméra est là, tout simplement, j'ai envie de dire, au milieu des murs, des discussions, des événements qui rythment la vie de cet hôpital. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Joris Lachaise, qui commence par nous expliquer sa démarche.
L'idée de départ, c'était d'essayer d'envisager... Comment avait été exportée l'institution psychiatrique en Afrique de l'Ouest au moment de la décolonisation ? Est-ce qu'il avait pu en rester justement 50 ans après le mouvement des indépendances africaines ? J'avais fait un film précédent à Bamako, au moment du cinquantenaire de l'indépendance. C'est en lisant François Fanon et en m'interrogeant sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre son militantisme anticolonial et sa pratique de médecin psychiatre en Algérie qui m'a conduit à m'interroger sur la façon dont justement comment la psychiatrie était pratiquée actuellement en Afrique de l'Ouest. Comme j'étais à Bamako, je pensais conduire des investigations au point G, qui est l'hôpital psychiatrique du Mali. Mes recherches m'ont conduit à découvrir que dans le pays voisin, le pays frère qui est le Sénégal, une histoire de la psychiatrie avait fait école, surtout le continent africain, ce qui est devenu l'école de Dakar, qui a commencé en fait à la fin des années 50, au moment où se préparait l'indépendance du pays, avec l'arrivée d'un neuropsychiatre français qui revenait de Djibouti, qui s'appelait Henri Collomb, et qui a vraiment transformé l'approche de la maladie mentale au Sénégal.
Et qu'est-ce qu'Henri Collomb alors a amené comme type d'idée en Afrique ? Qu'est-ce qu'il a exporté ?
Henri Collomb s'est retrouvé confronté à un cas de patiente qui était possédée par des rabs. Les rabs, ce sont les esprits ancestraux dans la conception traditionnelle africaine. Et donc, il s'est retrouvé désemparé face à un tel cas et il s'est mis à l'écoute des tradipraticiens, c'est-à-dire des médecins traditionnels africains. Et donc, il s'est ouvert à l'approche, à l'horizon anthropologique local, sénégalais, à l'imaginaire qui habitait en fait ses patients. Et donc il a amené des nouvelles pratiques au sein de l'hôpital, dont le système de l'accompagnant, le principe de l'accompagnant, c'est-à-dire d'aménager un lit systématiquement pour un accompagnant du patient, donc un lit pour un proche, afin de maintenir le lien entre l'intérieur de l'institution et la société, en fait, le milieu familial.
Donc, c'est-à-dire qu'il était capable de se mettre à l'écoute de cette société africaine, qu'il n'a pas amené de manière dogmatique et il n'a pas imposé une manière de pratiquer la psychiatrie comme on la pratique chez nous.
La remise en question d'Henri Collomb, c'est ça qui est important, en fait. C'est qu'il arrive, il crée le premier département de psychiatrie au Sénégal en 58. Avant, il n'y en avait pas. Il y avait des asiles sur le modèle... de la psychiatrie française du 19e siècle, c'est-à-dire un lieu qui était un lieu d'exclusion. Et donc ce que fait Henri Collomb, c'est remettre en question la grille de lecture occidentale. Il se rend compte que la grille de lecture psychiatrique n'est pas adaptée en fait, à la situation socioculturelle de ses patients. Et donc il va essayer de collaborer avec des approches traditionnelles.
Collomb, dans sa thérapie, avait invité les guérisseurs à venir avec leur monde, avec leur pouvoir, pour essayer de soutenir cette médecine psychiatrique qui était fondamentalement chimique, quoi. Parce que quand je parle encore de l'aldol, du largatil, du nosinan, c'est une centrale nucléaire chimique. Et je pèse bien mes mots. C'est des médicaments extrêmement lourds et extrêmement douloureux.
Qu'est-ce que ça donne, alors, justement, ce dialogue entre médecine classique, occidentale, telle qu'on la connaît, et des approches plus traditionnelles, où on croit notamment aux esprits ?
En fait, on ne voit pas une vraie collaboration entre les deux. Notamment 50 ans après l'indépendance, 50 ans après cette révolution psychiatrique, c'est que du fait des mutations de la société sénégalaise et du fait des changements de paradigme dus à la mondialisation, on se rend compte que les mentalités ont changé et qu'en fait, il y a un rejet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable dialogue, mais moi, ce que je montre à travers ce film, c'est des contradictions plutôt. Ce que j'ai voulu faire à travers ce film, c'est essayer de voir les limites, justement, de la structure théorique de l'hôpital psychiatrique, de montrer la porosité que le discours officiel, institutionnel, pouvait avoir, comment il était pénétré, en fait, par les conceptions, les valeurs de la société environnante.
Sors.
Tous les deux mois à moi. Tous les démons à moi.
Sors.
J'ai croisé Abraham. J'ai croisé celui qui a vendu Jésus-Christ. J'ai croisé celui-là.
I command your memory to come back. I restore your memory. What is your father's name?
My father's name? Raif Issa-Akil.
C'est vrai. Where are you right now?
I'm in a hospital.
Hospital.
Très concrètement, ça prend quelle forme alors ? C'est-à-dire que les médecins qui se réfugient parfois peut-être derrière un discours de praticiens avec des valeurs occidentales, des recours aux médicaments aussi tels qu'on les connaît chez nous, des anxiolytiques, des antidépresseurs, font parfois appel quand même à des guérisseurs ?
Alors, dans le film, effectivement, le psychiatre qui est en dialogue avec les tradis praticiens au sein de l'hôpital de Tiaroy, qui est à 16 km de Dakar, reconnaît qu'il peut diagnostiquer, établir un pronostic, administrer un traitement à un patient, et en même temps le renvoyer auprès de tradis praticiens parce qu'il considère que ça peut opérer comme la psychothérapie peut opérer auprès de patients. C'est-à-dire que ce médecin va pouvoir reconnaître la nécessité, l'efficacité de convoquer l'imaginaire en fait, traditionnel pour prendre en considération le désarroi, le désordre psychique de ses patients. Mais par ailleurs, on voit d'autres protagonistes du film, d'anciens patients de l'hôpital notamment, qui vont dénoncer en fait, la violence et la brutalité des traitements administrés au sein de l'hôpital.
Allez, explique-moi la porte. Non, tu ne peux pas sortir, parce que tu es ici.
Non,
on n'a pas de droit pour le faire sortir.
Je me regrette.
Tu te regrettes quoi? Qu'est-ce que tu
regrettes?
Non, il faut mettre un pot. Non, c'est pas comme ça. Il faut
le faire, s'il vous plaît.
Mais on peut, il faut
s'il
laisser.
S'il vous plaît.
D'accord.
Je me regrette.
Oui.
Il faut sortir.
D'accord, il n'y a pas de problème. Dans 5 minutes.
Il faut sortir, je me regrette. Ou bien, il faut
dans 5 minutes, je vais venir pour vous sortir.
Qu'est-ce qu'ils disent notamment ? Rappelez-nous peut-être les propos des patients, parce qu'il y a des propos très forts. Hein.
Alors, on a notamment un ami de Radicilla qui est dans le film. Donc Radicilla, qui est une ancienne patiente de l'hôpital de Tiaroy, mais qui est surtout, avant tout, une réalisatrice, une cinéaste et une écrivain sénégalaise qui est malheureusement décédée l'an dernier, et que j'ai rencontrée donc, au cours de ce tournage, qui a elle-même réalisé un film sur sa propre maladie mentale. Et j'emploie le terme de maladie mentale avec mille guillemets, puisque justement cette idée de maladie aussi qui est en question. Mais donc Khadi avait fait ce film au moment où elle s'est retrouvée, dit-elle, après une période d'amnésie dans l'hôpital de Tiaroy, dans lequel se déroule ce qui reste de la folie. Elle était mon double de proximité, mon double africain en tant que cinéaste, mais à la fois quelqu'un qui pouvait tenir un discours depuis l'intérieur de l'hôpital en tant que patient, puisqu'on la voit en discussion avec son médecin traitant. Et en même temps, quelqu'un qui peut produire un discours distancé, analytique, à la fois sur l'occidentalisation de la société sénégalaise, sur l'histoire de la psychiatrie. C'est elle-même qui parle de Michel Foucault et de son histoire de la folie à l'âge classique. Elle était vraiment à la fois dedans et dehors, au présent et au passé.
Je suis d'accord aussi pour cette histoire de guérisseur, je suis d'accord pour ces pratiques traditionnelles. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que quelque part, on est aussi dans un contexte urbain en Afrique. On n'est plus dans l'Afrique traditionnelle des villages, où peut-être ces pratiques traditionnelles pouvaient opérer. Là, c'est des névroses urbaines. C'est des névroses qui sont essentiellement urbaines, donc qui sont modernes. Et qui ont quelque part quelque chose à voir aussi avec cet Occident dont tu parles. Mm-hmm. Donc moi, je considère que ces malades aussi doivent pouvoir bénéficier de ces traitements chimiques-là. Parce que c'est vrai que ce sont des traitements violents, mais ce n'est pas vraiment de la faute des médecins. C'est que la maladie mentale est une chose qui a été pendant longtemps taboue. Je ne sais pas si tu as lu l'histoire de la folie et de l'enfermement de Foucault, mais je veux dire, c'est une maladie pendant presque toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais essayé de la guérir. On a toujours essayé d'enfermer les malades, de les mettre de côté, de les isoler. Ce n'est que depuis pratiquement un siècle et demi qu'on essaie de trouver des traitements. Donc ce sont encore des traitements qui sont rudimentaires. Donc c'est un peu la faute de tout le monde, je veux dire. C'est la faute de l'histoire. C'est la faute de l'histoire de l'humanité parce que ce sont des maladies qui ont été toujours taboues. Ce sont des maladies, on a toujours mis le malade hors du village, hors de l'espace, hors de machin. Donc moi je suis très bien d'accord avec ces histoires de pratiques traditionnelles, de guérisseurs. Je suis d'accord, ça peut opérer. C'est notre univers aussi, c'est notre univers traditionnel. Dans notre imaginaire, depuis l'enfance, on est plongé dans ces choses-là. Donc ce sont des choses qui peuvent opérer. Mais je pense que les traitements chimiques aussi peuvent opérer. Parce que quelque part, dans nos maladies aussi, il y a une part d'Occident.
Joris Lachaise, ce qui est étonnant dans votre film « Ce qu'il reste de la folie », c'est de voir que finalement, pratiquement tous les patients qui sont suivis dans cet hôpital psychiatrique et qui suivent des traitements médicamenteux tels qu'on les connaît chez nous aussi, font presque tous appel à des techniques traditionnelles, à des guérisseurs, à des désenvoûteurs, des marabouts. Mais que les médecins eux-mêmes sont aussi pris dans cette culture et ont parfois un discours qui ne correspond pas à leur pratique, ou plutôt des pratiques qui ne correspondent pas à leur discours.
Alors aujourd'hui, à l'hôpital de Tiaroy, le personnel hospitalier est totalement africain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coopérants français. Et donc évidemment, les médecins sont pris dans cette contradiction entre le discours occidental, c'est-à-dire le discours de formation, le discours psychiatrique, et en même temps des compromis qu'ils sont obligés de faire avec les croyances de leurs patients, qu'ils peuvent en partie partager dans la mesure où eux-mêmes sont africains, sénégalais, burkinabés, puisque le docteur Sarah est un burkinabé chrétien. Et effectivement, 90% des patients qui se rendent à l'hôpital suivent simultanément un traitement, vont consulter un guérisseur, un marabout.
C'est souvent des séances de désenvoûtement. Donc, la plupart du temps, les malades pensent, ou leur famille pensent, que leur esprit s'est fait coloniser par un mauvais esprit, justement.
On peut dire que dans la conception traditionnelle africaine, la folie n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est un des derniers mots du film, prononcé par Issa Samb, qui est un des protagonistes du film, qui a le dernier mot du film, d'ailleurs, prononce « la folie n'existe pas », qui est une façon, en fait, de tourner en dérision cette conception qu'on peut avoir de la folie telle qu'elle a été forgée en Occident depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle et telle qu'elle s'est perpétuée aujourd'hui. Et donc, dans la conception traditionnelle africaine, comme je le disais, la folie n'existe pas dans la mesure où la cause du désordre psychique, le symptôme, ce que nous on va appeler le symptôme, est dû à une attaque extérieure, à un génie, à un sorcier. Le symptôme de l'individu n'est pas un symptôme isolé, un symptôme du groupe, mais c'est un symptôme du groupe. C'est-à-dire qu'il va être pris en charge collectivement, et c'est aussi ce que montre la séquence du film où on voit le rituel du end-up, donc il y a un rituel de transe thérapeutique où a lieu un sacrifice, où il s'agit de nommer justement cet esprit ancestral, pour l'intégrer dans l'univers des esprits ancestraux unanimement reconnus par la collectivité. Et donc là, on voit la patiente qui est vraiment au centre de l'attention, au centre du soin de sa famille, qui d'ailleurs s'investit physiquement, mais aussi financièrement, pendant des jours, et sacrifier une chèvre, un bœuf, c'est un vrai sacrifice économique hein, pour une famille, parce que c'est très coûteux. Et c'est là aussi où se jouent des contradictions dans notre conception traditionnelle occidentale, l'hôpital psychiatrique est un endroit justement où on va isoler le patient de la source pathogène qui est supposée être la société, la famille. À partir du moment où on décide de mettre un lit pour un accompagnant, on est dans une autre vision, et c'est une vision qui correspond à cette conception africaine.
Comment comprendre au monde où, pendant les 7 milliards d'individus, que les 7 milliards d'individus qui existent dans le monde, que là, par exemple, la richesse mondiale, 2% des plus riches du monde détiennent la moitié de la richesse mondiale. Regardez-moi cette inégalité. Ils sont en train de nous assoiffer, de nous affamer. Ils vont nous faire des esclaves, bien sûr, mais des esclaves dans la tête. Dans la tête. Mais l'esclavage n'existe pas. La preuve, c'est un caméraman blanc qui est en train de m'interviewer. Maintenant, l'esclavage, c'est aboli. C'est une erreur de l'histoire. Faut oublier cela. Faut aller en avant.
Ok, en avant, destination savane ancestrale. T'es malangé, ma sassouma malangé. Ok, c'est le morqué, le morqué. T'es malangé, ma sassouma malangé.
Voilà, le caméraman blanc, c'était Joris Lachaise qui signe Ce qu'il reste de la folie, film présenté par Black Movie à Genève.
Johnny Beko Cola,
oh la la,
Johnny Beko Cola, Joma Aladon, Kanumanake Kamandila, Kanumba Yanteri, Nikera Mafe Katife, Nianyanyini Sampe. Kanyenyini duguma, kanyini sani duguche na manoya alafile.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola. Joma aladon. Mama na kedi ala jamaye, fiye goya manin kelenye. Idu mana ke goya jamaye, fiye dia manin kelenye.
La la,
Johnny mbe kokola.
Oh la la,
Johnny mbe kokola. Joma aladon. Niye miri, monde be Johnny mfe ama dunya su. Ti giugne yande barusuoi.
Oh la la,
Johnny mbe kokola.
Oh la la,
Johnny mbe kokola.
Oh la la,
Johnny mbe kokola.
Rokia Traoré avec ce titre Laila dans Babylone, où nous parlons du festival Black Movie qui se déroule à Genève jusqu'au week-end prochain. L'occasion de voir des films d'ailleurs, de se sensibiliser et de découvrir des choses peut-être qu'on ne savait pas, comme moi par exemple, par rapport à ce film de Joris Lachaise, Ce qu'il reste de la folie, où on parle de ce docteur Colomb qui déjà pratique l'ethnopsychiatrie bien avant que Tobin Nathan nous rende attentifs à cette façon de traiter des gens avec la médecine traditionnelle et notre médecine de blanc, dis-je entre guillemets. Nous sommes en compagnie de Michel Amargé, grand spécialiste du cinéma africain. Ce cinéma-là, ce film-là de Joris Lachaise, très atypique par rapport à la production habituelle.
C'est-à-dire que c'est quand même le regard de quelqu'un qui vient de l'Occident, quelqu'un qui a une empathie pour visiblement le sujet et le climat sénégalais qu'il filme et qu'il capte dans le film. Mais Joris Lachaise, c'est quelqu'un qui a été aussi orienté vers le documentaire en rencontrant Jean Rouch, grand ethnologue, cinéaste français, voilà, qui n'hésitait pas lui aussi à aller s'immerger. Il avait une grande complicité avec beaucoup de cinéastes et de gens en Afrique, et qui allaient s'immerger avec sa caméra à l'intérieur, d'abord pour capter des pratiques, des rites, etc., pour en témoigner, et puis après pour y participer et aussi jouer avec cet imaginaire qui était celui des Africains, ses complices, et avec qui il faisait des films. Et donc Jean Rouch avait une manière de s'immerger avec sa caméra et de dire aux gens qui étaient autour de lui, bah tiens, prends là, tu vas faire un plan, etc. Et petit à petit, les gens se rentraient dans son cercle, et il y en a qui sont devenus réalisateurs, cinéastes, parce que il les a initiés comme ça, sans dogmatisme, à la prise de vue. Donc, Joris Lachaise est quelque part l'héritier de ça. Il a rencontré Rouch, je crois, en 1999, à peu près. Il faisait des études plutôt anthropologiques, et je crois que ça, cette manière-là d'aller sur le terrain, de se laisser gagner par ce qui se passe, l'a beaucoup influencé. Et d'ailleurs, je crois que le film a été monté après, mais que au départ, il est arrivé avec sa caméra, son envie de témoigner de ça, et que le film a pris corps par l'expérience et la conjonction de sa présence dans cet espace-là.
Est-ce que vous savez comment ce film a été reçu en Afrique ?
Je crois qu'il a été reçu avec passion. Il a été montré pas beaucoup en Afrique, à ma connaissance. Je pense qu'il a été montré à Dakar déjà. Et donc, il y a quelque chose de frappant aussi qu'il faut signaler par rapport à ce film. D'abord, vous avez entendu ce très joli phrasé sénégalais qui est tout à fait charmant. Et vous avez entendu une jeune femme qui parle dans le film, qui est quelqu'un qui sert de fil conducteur un petit peu à son approche. Voilà, c'est une cinéaste, en fait, Radi Silla, qui est décédée il y a 2 ans. Et qui, à partir des années 97, a tourné des films. Elle en a pas fait beaucoup, elle en a fait 4-5, des moyens-métrages, pas des longs-métrages. Et c'est quelqu'un qui avait des dépressions chroniques et qui a été soignée pour ça. Elle a été soignée dans l'établissement que filme Joris Lachaise. Et donc, elle y revient, et on la voit dans le film parler avec les docteurs qui l'ont soignée. Et ce qui est frappant avec elle, c'est que elle a un grand mélange de conscience, et que par moment, et même on le voit dans le film, elle pleure, ça va plus très bien. Et voilà, c'était quelqu'un qui était très entier et qui avait une parole très très précise et très clairvoyante sur les choses, comme on a pu l'entendre dans l'extrait qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Et donc elle est très consciente de ce qui va arriver. Et les Sénégalais, quand ils ont vu le film, ils ont retrouvé cette cinéaste qui était une figure aussi quelque part, parce que elle a écrit des livres aussi, elle était romancière, elle a écrit quelques livres, pas beaucoup, mais elle avait une matière très poétique de rédiger. Et ses films aussi qui sont, elle a fait un documentaire sur les cars rapides, elle a fait une fiction adaptée de ses romans, et elle a fait un film aussi sur son propre rapport avec la folie, entre guillemets. Elle a été marginalisée, elle s'est sentie marginalisée, Elle a témoigné de ça et donc elle a fait un film subjectif là-dessus. Et les Sénégalais, quand ils la voient, le film, ils la revoient, ils la retrouvent et ils retrouvent cette parole, une parole extrêmement incisive et parfois dérangeante sur la société sénégalaise parce que Hadi Sylla, elle disait toujours ce qui dérangeait ou ce qui n'allait pas. Et donc, ça participe aussi à cette réception du film.
Hadi Sylla est donc une femme sénégalaise qui a tourné des films, qui est aujourd'hui décédée et que l'on voit donc dans le film de Joris Lachaise, Ce qu'il reste de la folie. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'emparent d'une caméra sur le continent africain ?
De manière significative, le cinéma au Sénégal est un des cinémas pionniers. Ça a beaucoup commencé là. Et la première cinéaste femme d'Afrique, c'est une Sénégalaise, Safi Faye. En 1972, elle commence à réaliser un film, un long métrage documentaire. Donc vous voyez, il y a déjà cet ancrage très profond avec le documentaire. Et justement, Safi Faye, c'est quelqu'un qui a côtoyé le cinéma parce que elle était plutôt anthropologue aussi, et sa démarche est anthropologique. Et elle a côtoyé Jean Rouch, qui l'a fait jouer dans un de ses films. Elle était très jeune et belle, elle est toujours très belle. Et donc, elle a joué un rôle, et puis elle s'est dit qu'elle pouvait, elle aussi, avec la caméra, faire réfléchir. Et le premier film qu'elle a fait, c'était une manière d'interroger les réformes structurelles agraires dans sa société séraire. Donc, c'est une des premières femmes.
Il y a beaucoup de documentaires qui sont produits sur le continent africain. Si on prend les quelques films africains qui sont projetés dans le cadre du festival Black Movie, donc qu'on peut suivre jusqu'à dimanche à Genève, il y a ce film dont on a parlé, Ce qu'il reste de la folie, filmé donc par un blanc. Il y a Les Hustlers sur un bidonville à Lomé au Togo, Examen d'État tourné en République démocratique du Congo, B4 Boy tourné au Nigeria et encore Minor Shutdown qui est donc un documentaire sur des mineurs en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ces quatre films vous inspirent et que disent-ils de la production de ces films africains ?
Alors, ce sont des films très divers qui nous entraînent dans des zones géographiques différentes. Le premier que je prendrai, c'est le film Before Boys, qui est réalisé par une femme, justement. Vous me demandez s'il y a beaucoup de femmes, et il y en a beaucoup. Il y a plus de femmes qui travaillent sur l'image dans les télévisions africaines que pour faire des longs métrages, parce que c'est un peu plus compliqué de diriger une équipe d'hommes, ils n'ont pas toujours envie que ce soit une femme, mais il y a des réalisatrices qui s'imposent et qui font leur chemin. Et cette réalisatrice, Chika Anadou, du Nigeria, fait son chemin. Elle a appris le cinéma, elle a perfectionné le cinéma à New York, elle a pris des contacts avec des producteurs et elle a créé sa propre société de distribution au Nigeria. Alors, justement, ce film Before Boys, c'est une fiction qui milite pour la place de la femme, pour l'évolution du statut de la femme, puisque le problème de l'héroïne du film, c'est que on attend qu'elle ait un garçon et on ne sait pas si elle va avoir un garçon. Et puis elle fait une fausse couche et finalement elle peut plus avoir d'enfant. Et donc il y a la pression de la mère, de son mari et de la société qui attend qu'elle ait un enfant mal, et c'est ce contre quoi le film, si vous voulez, s'insurge quelque part avec les codes du cinéma en vigueur au Nigeria. Alors, le Nigeria, c'est un pays qui est très grand, qui est très riche, et peut-être trop, et du coup, il y a eu des crises politiques répétées. Le cinéma était parti avec un grand élan, et puis il s'est essoufflé parce qu'il y avait le couvre-feu il y a à peu près 20 ans, et avec la révolution du numérique, les choses sont reparties au Nigeria de plus belle en matière de production d'images, puisqu'on peut recenser plus de 1000 longs métrages par an qui se tournent aujourd'hui au Nigeria.
Et c'est des films tournés rapidement avec des moyens assez limités. Hein.
C'est des films tournés très vite, effectivement. En même pas une semaine, le film est écrit, tourné, post-produit et mis sur le marché par de charmantes jeunes femmes qui viennent porter maintenant des DVD. Avant, c'était des cassettes VHS. Et donc, du coup, la production du Nigeria, elle a un grand boom, elle est très prolifique. Et à force de faire des films qui sont des films de consommation directe, qui s'adressent aux gens, à la fois pour parler des problèmes de famille, des problèmes de religion, le Nord plutôt musulman, le Sud plutôt catholique, ce sont des films moraux qui ont un impact, qui sont des films directs. Et donc, il y a, si vous voulez, une finalité toujours pédagogique avec le cinéma. Et donc, c'est une production très singulière qui fait école un peu au Ghana, les gens qui ont une sensibilité un peu proche se sont mis aussi à faire des films un peu dans ce sens. La production s'exporte parce qu'il y a une communauté nigériane qui est beaucoup installée aux États-Unis. Et donc, il y a un gros volet de production qui sont pas des films d'auteur, mais qui sont des films, voilà, de fabrication, des films de flux.
Mais à nouveau, un film où se pose la question de la tradition et de la modernité. Là, cette femme, elle travaille dans une télévision, une radio, elle gagne bien sa vie. Ouais. Elle est donc aisée, elle a une bonne noire qui travaille chez eux. Elle a cette belle-mère qui veut que le fils prenne une deuxième épouse afin de leur donner un héritier homme. Et on est dans cette tradition de « voilà, j'ai travaillé dur pour que notre nom soit perpétué et il nous faut un homme dans la famille ». Et cette femme qui est dans un contexte complètement moderne.
Mais vous savez, les deux voisines volontiers en Afrique, dans les villes, les gens ont des portables, des 4x4, et puis dans les campagnes, on est loin de tout ça. Mais on a quand même parfois des portables qui se promènent. Donc il y a une grande, comment dire, il y a un grand clivage entre la classe aisée et la classe pauvre. Plus peut-être qu'entre la tradition et la modernité. Le clivage, il est là, si vous voulez. Mmh. Parce que, effectivement, comme on le voit dans le film de Joris Lachaise, tout ce qui est modernité des questions psychiatriques, etc., sont accompagnés par des considérations qui sont de l'héritage culturel. C'est-à-dire, on se fait soigner par un docteur, mais en même temps, on va consulter le guérisseur. Donc, c'est un tout. Et même s'il y a une grande modernité dans une certaine classe de la société, ça n'empêche pas que les traditions soient là, que un PDG qui fait une réunion ou un journaliste, un critique de cinéma comme moi qui viendrait à l'antenne, il prendrait un gris-gris d'abord avant de venir, où il verrait juste un féticheur pour que ça se passe bien et que le sort soit favorable. Donc tout ça participe, si vous voulez, à l'expression du cinéma qui est vraiment en phase avec la société.
Mais ça veut dire que c'est une préoccupation chez les cinéastes du continent africain, ou ça veut dire que c'est simplement le reflet d'une réalité qu'ils vivent au quotidien ?
C'est le reflet d'une réalité, mais vous savez, par exemple, vous prenez le film Les Hustlers, qui a été réalisé au Togo par Egome Ama.
Dans un bidonville.
Un bidonville, près du port de Lomé. Il filme les gens, il filme un groupe d'hommes qui se débrouillent comme ils peuvent pour faire des petits métiers, pas légaux, qui consomment de la drogue et donc qui doivent, pour acheter leur drogue, travailler. Et une fois qu'ils ont travaillé, pour pouvoir travailler, ils doivent consommer la drogue. Parce que ça leur donne suffisamment de force et d'énergie pour faire le travail. Là, on est, si vous voulez, dans un film qui est un documentaire encore, puisqu'il y a effectivement beaucoup de documentaires. On est dans un film qui regarde une classe de parias qui sont marginalisés, où la question de la modernité, elle se pose pas vraiment, et où on regarde des gens qui sont isolés du corpus social, parce qu'ils sont en marge, qui vivent en marge, et le propos du cinéaste, justement, est de les réhabiliter par l'image, et de montrer avec sa caméra que ces gens existent, et de confronter sa propre société, d'abord, avec l'image des gens qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne peut pas voir, parce que n'importe qui peut pas s'aventurer dans les quartiers comme ça. Et donc, le cinéma, là, a une fonction de conciliation sociale.
Absolument. Et d'ailleurs, là, à nouveau, pudeur, puisque l'un des hommes parle de son frère qui est obligé de se doucher aux vues de tous et que c'est insupportable. Un film qui parle beaucoup d'humiliation aussi. Mmh. Ces gens disent on ne vole pas, on est des délinquants conscients. Il y a une forme de dignité dans cette façon d'être hors champ. Finalement, hors regard, puisqu'on voit aussi cette barrière qui entoure ce bidonville où ils sont cachés des yeux des autres. C'est un film qui m'a beaucoup frappé de par, justement, un vrai trait de pinceau tout à fait africain sur une réalité qu'on montre peu, et on voit surtout la dureté de ces vies, de ces hommes qui partent en mer pour ramasser dans un filet une poignée de poissons. C'est un film choquant.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont très dures en Afrique. Et vous prenez par exemple un autre problème qui est celui de l'éducation, que montre très bien le film de Dieudo Amadi, Examen d'État. C'est un réalisateur du Congo qui suit des élèves qui doivent passer l'équivalent du bac et qui sont rejetés de l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer l'école. L'école, il faut la payer, sinon on peut pas y aller. L'État a pas les moyens de scolariser tout le monde. Et donc, ils n'ont pas les moyens de suivre les cours. Donc, ils doivent s'organiser pour réviser entre eux et pour essayer de voir comment ils peuvent obtenir les sujets avant l'examen pour essayer de répondre le mieux possible. Donc, il y a tout un trafic qui se joue de ça. Et le réalisateur est là aussi très proche de ces sujets. Il suit un groupe d'élèves comme ça qui se débrouillent par eux-mêmes. Et la caméra de proximité est une caméra qui réhabilite aussi la dignité de ces élèves, qu'on pourrait regarder comme, là aussi, des gens qui sont un peu magouilleurs. Mais en fait, leur geste, c'est un geste de survie et de vouloir réussir quand même à avoir l'examen, même s'ils n'ont pas les moyens de suivre les cours. Alors, vous avez là, par exemple, un cinéaste qui est très soucieux, effectivement, de regarder ces sujets avec dignité et de nous montrer un regard très pudique aussi sur eux. Et puis, en même temps, qui nous dit de manière terrible, mais regardez mon pays, le Congo, la République démocratique du Congo, où les gens ne peuvent pas suivre l'école. Et même s'ils ont cet examen, ça ne veut pas dire qu'ils ont la capacité d'avoir le niveau. Donc c'est aussi un cri d'alerte, mais en même temps qui accompagne cette nécessité de survivre, de s'adapter à des sociétés très dures et très inégales. Et le cinéma est là aussi pour accompagner ces élans.
Alors, autre documentaire militant, cette fois, c'est Minor Shutdown, un film sud-africain qui parle de ces mineurs qui ont été 112 mineurs grévistes sur lesquels on a tiré.
34 exactement qui ont été tués. Minor Shutdown, oui, c'est le titre explicite bien ça. C'était en août 2012 en Afrique du Sud, une grève très dure par les mineurs. Les négociations n'ont pas abouti et la police a tiré dans le tas. Le film qu'a réalisé Réad Desaï, qui est effectivement sud-africain, qui regarde dans ses films généralement avec beaucoup de sens critique la société d'Afrique du Sud, qui a été exilé un temps à l'époque de l'apartheid, qui est revenu en Afrique du Sud fonder sa société de production pour développer un travail personnel et aider à la production d'images aussi. Ce réalisateur est là pour faire des enquêtes sur les mineurs et puis il assiste aux négociations. Ça dure, le film nous montre sur une semaine à peu près ce qui se passe jusqu'au massacre, puisque les mineurs ne se révoltaient pas, je veux dire, violemment, ils étaient très pacifistes, ce qu'on voit dans le film, et que leur sort était déjà scellé parce que le fait de réagir comme ça et de faire une résistance par rapport à la société minière, ça n'a pas été accepté et que leurs revendications ne pouvaient pas trouver résolution puisque la société ne voulait pas payer plus.
C'est un film qui a eu un écho en Afrique du Sud, un écho fort.
Mais oui, parce que le réalisateur accompagne son film. Il a effectivement un côté très militant. Déjà, l'affaire a été un grand choc en Afrique du Sud post-apartheid. Parce qu'on a vu que les violences policières, à l'époque de l'apartheid, les révoltes dans Soweto, etc., elles étaient motivées par l'apartheid. Or là, on met à nu le fait que la fracture économique en Afrique du Sud, elle est toujours vivace. Et que même si c'est pas des différences raciales, il y a une différence de classe. Et que, au nom de ces différences de classe, la police intervient et appuie le capital qui est représenté par les mineurs, donc la société minière. Donc ça a été un grand choc, cette affaire. Quand même, 34 mineurs tués. Et quand on voit le film, on voit combien ils ont été quelque part froidement tués, parce qu'ils n'étaient même pas armés, et qu'il y a plusieurs épisodes où on leur fait déposer leurs bâtons, etc. Donc, ils ne sont vraiment pas armés, et la police tire dedans. Alors, on sent que les policiers, ils ont à la fois peur de cette masse de manifestants, et qu'à la fois aussi, ils sont là comme un outil répressif. Donc, oui, le film a eu beaucoup d'impact, parce qu'il est accompagné, parce qu'il qu'il est projeté sur place et parce que le réalisateur le défend, provoque le débat. Et là aussi, le cinéma se fait le relais d'un choc social.
Vous parlez de choc social, on était exactement à 15 jours des attentats en France contre Charlie Hebdo, on est encore secoué par ces attentats. Je pense à un film comme Timbuktu d'Abderrahman Sissako, tourné au Mali, et qui met en scène un village aux prises avec des djihadistes qui veulent imposer par la force et la brutalité la charia. Qu'est-ce que ce film vous inspire et est-ce que d'une certaine manière ce genre de film est d'autant plus essentiel aujourd'hui?
Je dirais d'abord que des manifestations et des attentats et des violences, il y en a beaucoup. Il y en a aujourd'hui au Congo. Je parlais de la République démocratique du Congo. Le président veut faire une constitution qui lui permettrait de rester encore au pouvoir. Donc il y a eu des morts, des manifestations réprimées. Que le cinéaste qui a fait examen d'état, il est bloqué, il aurait dû être là déjà, il est bloqué à l'aéroport, qu'il y a aussi des massacres qui ont beaucoup lieu au Nigeria pour des questions religieuses, et donc on est dans un moment où ces tensions au nom de la religion sont extrêmement exacerbées. Il y a eu la déstabilisation causée par l'effondrement du système de la Libye. Il y a eu plein de gens armés qui arrivent avec des moyens. Il y a cette résurgence d'un référent religieux qui serait l'islam, mais radical, peut apparaître comme un repère ou comme un modèle pour certains. Donc on est dans un grand moment de tension, et en Mauritanie, qui est un État aussi qui a connu des coups d'État, des gouvernements militaires, il y a un cinéaste, Abderrahman Sissako, qui tient à témoigner de ce danger, qui a grandi au Mali, et qui donc tourne Timbuktu sur ce village, comme vous dites, ou cette ville, qui devient sous l'emprise des djihadistes, et on regarde comment ça se passe. Mais je voudrais dire que c'est un film qui est politique, évidemment, qui a un propos politique et quelque part peut-être polémique, mais c'est surtout un film à l'image des autres films d'Abderrahman Sissako. C'est un film qui a aussi beaucoup de poésie. Et là, la poésie se manifeste dans la manière dont la résistance des habitants se fait à cette emprise autoritaire des djihadistes qui veulent que les femmes portent des gants. Alors on voit une poissonnière qui est dans son étal au marché et qui dit « Mais moi je vends pas mon poisson avec mes gants, je veux pas porter des gants. Débrouillez-vous, sinon je vends pas du poisson, je m'en vais. » Donc la résistance, elle est aussi sous une forme, si vous voulez, de dérision par rapport aux dictats qui sont imposés. On interdit aux enfants et aux adultes de jouer au foot, alors que des djihadistes parlent entre eux dans le film des matchs de foot, et ils connaissent bien les membres de l'équipe, des équipes de France, du Paris Saint-Germain, etc. Et on interdit aux habitants de jouer au ballon. Alors, les enfants, les gamins, font une partie de football dans un champ de foot sans ballon.
Des images absolument saisissantes.
Et ces images, qui sont des images marquantes, sont une résistance à cette autorité, et une résistance qui emploie le langage de la poésie, de l'humour aussi, et quelque part une résistance quelque part pacifique.
Bon, Timbuktu, c'est un film qu'on peut voir dans les salles, partout en Suisse romande.
Voilà, les autres films qui vont sortir également. Et puis on va donner aussi les autres films que l'on peut voir dans le cadre du festival Black Movie, donc qui se tient jusqu'à dimanche. Il y a Les Hustlers sur ce bidonville à Lomé, que l'on peut voir ce soir au Spoutnik à 19h30. C'est un documentaire. Examen d'État, tourné en République démocratique du Congo, à voir ce soir, jeudi et samedi au Spoutnik également. Be for Boy, une fiction tournée au Nigeria, vendredi, samedi et dimanche à Black Movie. Minor Shutdown en Afrique du Sud, sur ces mineurs en Afrique du Sud, c'est ce soir à 17h30 au Spoutnik. Quant au film Ce qu'il reste de la folie de Joris Lachaise, il va peut-être être diffusé au théâtre
Spoutnik.
Au Spoutnik prochainement, pas pour l'instant, on vous tiendra au courant.
À l'usine à Genève, Michel Amargé a signalé également que vous animez des tables rondes, donc si nos auditeurs se rendent au festival Black Movie d'ici dimanche et risquent de vous croiser, quoi qu'il en soit, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis bon festival, ce sera tout ce qu'on peut vous souhaiter. L'émission du jour vous était proposée par Laurence Froidevaux et Nancy Psilantis. C'est Jean-Philippe Sfalen qui signait la réalisation et Nicole Corpato, notre assistante de production. Il est 10h.